إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc الحمد لله، الله سبحانه وتعالى nous a permis de nous réunir dans cette assise pour un sujet qui a sa plus grande importance, qui est l'étude d'un épître dans la croyance authentique du musulman. Effectivement, la croyance est la base sur laquelle tout le reste se construit. Si la croyance est authentique, alors tous les actes qui vont en découler seront authentiques, incha'Allah. Plus la croyance est bonne et forte et authentique, et plus les actes sont corrects. De même que quand la croyance est dénaturée, n'est pas authentique, est dévié, alors les actes qui s'en suivent ne sont que la résultante de cette croyance déviante. Il faut savoir aussi que dans cette époque où les gens sont occupés avec seulement le matériel ou des choses qui n'ont aucune valeur réelle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir libéré de son temps, consacré un moment pour apprendre sa religion, ça c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour lequel il faut être reconnaissant envers lui. Car en réalité, si Allah ne nous avait pas permis, nous n'aurions pu nous réunir aujourd'hui pour cette assise qui est aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah n'avait pas voulu, on ne se serait pas réunis pour pouvoir apprendre et étudier ensemble cet épître et ce livret du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah. Et vous savez très bien la valeur qu'ont les assises de science auprès d'Allah tabarak wa ta'ala, qu'il y a des anges spécifiques qui parcourent la terre pour chercher ce type d'assise et pour y participer, et qui montent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour parler de ces gens-là qui se sont réunis, et Allah les loue. Allah subhanahu wa ta'ala les loue, et Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne, et Allah subhanahu wa ta'ala pardonne même à ceux qui se sont assis, qui sont venus même pour un autre besoin, tellement ces assises sont aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous avons choisi d'étudier ensemble un épître écrit par le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah. Quand on étudie un livre, il y a deux paramètres essentiels à prendre en compte. Premièrement, l'écrivain de ce livre. Qui est la personne qui a écrit ce livre? Est-ce que c'est une personne dont sa science, sa renommée, sa connaissance dans le domaine qu'il a écrit est reconnue? Quand on dit est reconnue, ce n'est pas reconnu sur les réseaux sociaux ou reconnu par la majorité des gens, mais reconnu chez les savants, chez les gens de science, chez les étudiants en science, car ce sont eux en réalité dont leur avis a une importance concernant ces sujets-là, et non pas la masse des musulmans, ni même certains sites internet qui sont très visités. Ce n'est pas le nombre de visites, ni le nombre d'écrits se trouvant sur un site, ni son ancienneté qui font de ce site ou de cette personne ou de ce réseau social ou quoi que ce soit d'autre une personne de référence dans un sujet précis. Mais on reconnaît les personnes de référence comme dans le monde scientifique, dans les autres domaines que la science religieuse. Dans tous les domaines scientifiques du monde, ce n'est pas tout le monde qui parle de ce sujet-là. Chez les médecins, il y a des professeurs qui sont reconnus mondialement, et quand ils reconnaissent les travaux d'un autre professeur, en lui faisant des louanges et des éloges, à partir de ce moment-là, on comprend que cet autre professeur est aussi une référence. De même, des gens de science sont reconnus par leur père, c'est-à-dire par les autres gens de science, et non pas par le commun des gens, ni le nombre de suiveurs, ni le nombre d'auditeurs qu'ils ont. Donc ça, c'est le premier critère à prendre en compte. L'écrivain qui a écrit ce sujet est une référence ou est une personne en qui nous pouvons faire confiance dans le sujet dans lequel il a écrit. Le deuxième point auquel il faut prêter attention, c'est le sujet. C'est le livre en lui-même. Le sujet dont il traite. Est-ce que c'est un sujet essentiel ou est-ce que c'est un sujet qui nous concerne? Parfois, il y a des sujets dans la science qui ne font pas partie des sujets qui sont obligatoires à connaître pour tout musulman, mais qui font partie de furud al-kifaya, d'une obligation communautaire, qui sont des sujets à connaître pour les étudiants en sciences, pour les gens plus poussés en sciences, qui ont besoin de connaître ces sujets pour pouvoir mieux comprendre les détails de la religion et mieux le transmettre au commun des musulmans. Donc ce type de sujet-là, il n'est pas obligatoire à tout le monde. Parfois même, il est mauvais que certains communs des gens étudient ces sujets, car ils n'ont pas le niveau nécessaire de le comprendre. Parfois même, en se concentrant sur des sujets qui sont pour eux secondaires, ils vont délaisser l'étude de sujets et de chapitres plus importants pour eux, qui sont des obligations individuelles et non pas communautaires. Autre chose, il faut savoir aussi que parfois, un grand savant peut écrire dans un sujet qui est important, mais le livre qu'il a écrit n'est pas considéré comme une référence en la matière dans le monde de la science. Les savants préfèrent tel ou tel ouvrage plutôt que tel ouvrage et lui donnent plus d'importance. Donc il est important de connaître aussi cela, de savoir quels sont les ouvrages d'importance que les savants considèrent importants et qu'ils encouragent à étudier pour la masse des musulmans. Donc voilà pourquoi nous avons choisi cet épître. Premièrement, il est écrit par un éminent savant de notre époque, dont nous allons parler rapidement. Deuxièmement, il parle d'un sujet qui est on ne peut plus essentiel et important, qui est la croyance des gens de la Sunna. Troisièmement, son livre a été fait d'une manière abordable pour tout musulman. Quatrièmement, il a été recommandé et des éloges sur son livre ont été faits par les grands savants de notre époque, et entre autres, Cheikh Ibn Baz, qui a fait la préface de ce livre. Donc avant de commencer à expliquer le titre de ce livre, nous allons lire la préface d'abord. Après, nous parlerons un petit peu de la vie de Cheikh Al-Uthaymeen.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad, ala ahli wa sahbihi ajma'in. Préface du bienveillant Cheikh Abdel Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz. Toute louange revient de droit à Allah seul. Qu'Allah fasse l'éloge et le salut, celui après qui nul prophète ne viendra, ainsi que sa famille et ses compagnons. Ceci dit, j'ai pris connaissance de la croyance, précieuse, concise, composée par notre frère, l'éminent savant, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen.
Naam. Donc, ici, déjà, il faut savoir qui est Cheikh Abdelaziz ibn Abdillah ibn Baz, rahimahullah. Le Cheikh Abdelaziz ibn Abdillah ibn Baz était un éminent savant qui était le mufti d'Arabie, qui est mort il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années, rahimahullah. Et il fait partie, comme les savants l'ont reconnu, et comme l'a dit Cheikh Al-Albani et d'autres, qu'il est le revivificateur de la religion de cette époque. Il fait partie, on va dire, des imams dans la science de cette époque. Comme il est venu dans un hadith authentique, Allah tabaraka wa ta'ala, à chaque siècle, il choisit une personne pour revivifier sa religion. Et donc, certains savants ont considéré que, Inch'Allah, Cheikh Ibn Baz est l'un de ceux-là. D'autres ont dit que c'était Cheikh Al-Albani concernant le hadith. D'autres ont dit qu'il y a des revivificateurs dans chaque domaine et que Cheikh Ibn Baz serait le revivificateur dans la croyance et dans le fiqh, et Cheikh Al-Albani dans le hadith, et Cheikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali dans la science de l'jarh wa ta'dil. Donc voilà comment les savants eux-mêmes se font des éloges entre eux, et ça, cela montre les liens d'amour et de fraternité qu'il y a entre les savants de l'islam, malgré parfois qu'ils peuvent diverger entre eux sur certains sujets, comme il y a eu beaucoup de divergences entre Cheikh Al-Albani et Cheikh Ibn Baz sur plusieurs points. Malgré cela, chacun d'entre eux faisait les éloges, des grands éloges sur l'autre. Ce n'est pas comme nous maintenant, les gens qui ne sont pas habitués à ce qu'on les contredise. Dès qu'il y a une personne qui le contredit, c'est son ennemi. Non, les savants savaient reconnaître entre les contradictions qui font partie des contradictions contraires à la religion, pour lesquelles on peut aimer et détester pour Allah, et d'autres contradictions qui sont des efforts d'interprétation, où chacun qui a fait l'effort de trouver la vérité a au minimum une récompense. si ce n'est deux récompenses. Et malgré cela, donc, ils reconnaissent la vertu et la science et la place de ce savant. Et c'est pour cela que l'on trouve que malgré les nombreuses divergences et certains écrits même qui pourraient paraître durs entre eux, Cheikh Ibn Baz dire que Cheikh Al-Albani est un imam et un grand savant de cette époque, de même que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, disait de Cheikh Ibn Baz et d'autres savants. Non. Ici, quand il dit « j'ai pris connaissance de la croyance », c'est-à-dire, il a résumé le titre de l'épître, la croyance des gens de la sunna et du groupe. Et il a nommé cet épître-là de précieux, concis, composé par notre frère, l'éminent savant Cheikh Mohammed bin Saleh al-Uthaymeen. Donc, quand Cheikh Ibn Baz dit d'une personne qu'il est un éminent savant, c'est bien sûr une tazkiya et une éloge qui montre la place de Cheikh Mohammed bin Saleh al-Uthaymeen, rahimahullah. Naam, tafaddal.
Je l'ai entendu en entier et j'ai trouvé qu'elle contenait l'explication de la croyance des gens de la sunna et du groupe dans le chapitre de l'unicité d'Allah, de ses noms et attributs, ainsi que dans les chapitres de la croyance aux anges, aux livres, aux messagers, au jour dernier et à la prédestination favorable ou défavorable.
Naam. Alors ici, il y a un point très important. Il y a le fait que le Cheikh Ibn Baz a entendu la lecture, comme vous savez, Cheikh était aveugle, rahimahullah. Parfois, on peut trouver certains savants aveugles dire « j'ai lu tel livre, j'ai lu tel livre ». Il veut dire « par là, on m'a lu ». Mais là, il l'a clairement dit, il a dit « j'ai entendu, je l'ai entendu en entier », c'est-à-dire on lui a lu. Et le Cheikh a agréé et a reconnu et a donné son approbation, a approuvé ce qu'il y avait dans ce livre. Et il a considéré que tout ce qui était cité dans ce livre fait partie de la croyance des gens de la sunna. Donc, en plus que celui qui a écrit ce livre soit un savant éminent, parfois même un savant éminent peut faire des erreurs dans ses écrits ou dans certains de ses avis. Du fait que Cheikh Ibn Baz a lu ce livre ou bien lui a été lu et qu'il l'a approuvé et qu'il a considéré que tout ce qui était cité dedans était conforme à la croyance des gens de la sunna est une garantie en plus du fait qu'il a été relu et revérifié par une référence et un savant de notre époque. Et il a cité de quel chapitre traite ce livre? Il traite des 6 piliers de la foi. Et il les a cités ici. Il a cité la croyance des gens de la sunna et du groupe dans le chapitre de l'unicité d'Allah, de ses noms et attributs, ainsi que dans les chapitres de la croyance aux anges, aux livres, aux messagers et aux jours derniers et à la prédestination favorable ou défavorable. Naam.
Il a certes composé cet ouvrage avec brio, l'a rendu bénéfique et y a rassemblé tout ce que l'étudiant en sciences et tout musulman doivent connaître au sujet de la croyance en Allah, ses anges, ses livres, ses prophètes, au jour dernier et à la prédestination favorable ou défavorable.
Naam, quand il dit ici il y a rassemblé tout ce que l'étudiant, bien sûr, tous les détails n'y sont pas réunis. Il veut dire par là tout ce que l'étudiant et le simple musulman doivent connaître, c'est-à-dire le minimum à connaître. C'est pour ça qu'il a dit tout ce que l'étudiant en sciences et tout musulman doivent connaître, c'est-à-dire obligatoirement connaître. Et dans ce livre, il y a des choses qui sont supplémentaires à ce qui est obligatoire à connaître. Mais il y a au minimum tout ce qui est obligatoire à connaître et des choses en plus.
Non. À cela, il a aussi ajouté des enseignements bénéfiques liés à la croyance que l'on ne trouve que dans peu d'ouvrages écrits dans ce domaine.
Donc ici, le Cheikh a démontré que le Cheikh Mohammed bin Saleh al-Uthaymeen a donné quelques enseignements bénéfiques, quelques rajouts, quelques explications que l'on trouve que dans peu d'ouvrages concernant ce domaine. Ce livre-là, de ce point de vue-là, il a une spécificité.
Ah. Qu'Allah le rétribue de la meilleure des récompenses, lui augmente sa science, le guide et fasse que ce livre ainsi que l'ensemble de ses autres ouvrages soient profitables. Qu'Allah le place ainsi que moi-même et tous nos frères parmi le nombre de ceux qui guident et qui sont guidés. Et parmi ceux qui appellent à lui avec clairvoyance, certes il est l'audient et le proche. Dicté par l'indigent ayant besoin d'Allah, le Très-Haut, Abdelaziz ibn Abdullah ibn Ubez, puisse Allah être clément avec lui, qu'Allah fasse l'éloge et salue notre prophète Mohammed, ainsi que sa famille et ses compagnons.
Ici, quand il dit le Très-Haut, il parle d'Allah, dicté par l'indigent, ayant besoin d'Allah le Très-Haut, et non pas lui le Très-Haut, parce que quand il y a eu la coupure, on peut comprendre cela. Naam. Le président
général de l'administration des recherches scientifiques, de la délivrance des avis juridiques, du prêche et de l'orientation.
Naam. Précédemment. Pourquoi précédemment? Parce qu'il est mort, rahimahullah, rahmatan wa asya. Donc on tire de cela, c'est une habitude chez les savants de s'entraider, de s'allier dans le bien, et c'est ce qui est obligatoire en réalité entre les gens de la sunna. de s'entraider, de s'allier dans le bien, de s'aimer pour Allah, de s'encourager les uns les autres, d'encourager les musulmans de profiter des travaux de leurs frères en islam profitables, quand on voit que ce sont des gens dignes de confiance, qui ont fait un travail qui est profitable pour la Umma. Et on voit en cela, alhamdulillah, qu'il n'y avait que de bons sentiments entre eux, qu'ils étaient loin de tous les mauvais sentiments comme la jalousie, la haine, la prétention, l'orgueil ou toute autre chose que l'on peut trouver chez des gens qui s'affilient à la science, mais dont la science n'a pas illuminé les poitrines. Naam. Donc, avant de commencer à lire l'introduction de Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen, nous allons parler un petit peu en résumé de ce Cheikh. Le Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen, rahimahullah, est né en l'an 1347 de l'Égypte, à Unayza. C'est une ville de la région de Al-Qasim, en Arabie Saoudite, qui n'est pas très loin de Riyad, qui est dans le chemin entre Riyad et Médine, mais plus proche de Riyad. Le Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen, il s'appelle Mohammed, fils de Saleh, fils de Mohammed, fils de Suleyman, fils de Abd al-Rahman, Ali Uthaymeen. Quand on dit Al Uthaymeen, ou Ibn Uthaymeen, ou Al Uthaymeen, c'est la même chose, c'est-à-dire la famille de l'Uthaymeen. Et la famille Uthaymeen, elle fait partie de l'Wahba, qui sont de la grande tribu arabe qui sont les Bani Tamim. Les Bani Tamim, quand on dit Al-Tamimi, c'est dans ce sens-là. Le Cheikh a tout d'abord étudié le Coran auprès de son grand-père maternel, Abd al-Rahman ibn Suleyman al-Damir, rahimahullah. Puis il a appris l'écriture, il a appris à compter et quelques textes dans la langue arabe dans l'école du professeur Abdelaziz ibn Saleh al-Damir, rahimahullah. Avant de rejoindre l'école de l'enseignant Ali ibn Abdillah al-Shahitan, rahimahullah. Et il a fini le Coran chez lui avant qu'il atteigne l'âge de 14 ans. Et après une orientation de son père, rahimahullah, il s'est dirigé vers l'apprentissage de la science religieuse. Et le Cheikh Al-Allama Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, ou bien al-Sa'di, rahimahullah, enseignait plusieurs sciences parmi les sciences religieuses et de la langue arabe dans la grande mosquée, le Jami' de l'Unayza. Et il avait des grands étudiants comme Cheikh Mohammed ibn Abdelaziz Al-Mutawwa pour enseigner les débutants dans la science. Donc, c'est comme ça dans les assises des savants. Parfois, des grands savants désignent des étudiants chez eux, les grands étudiants, pour enseigner quelques matières, pour enseigner aux débutants ou pour enseigner d'autres matières que le cheikh lui-même n'a pas le temps d'enseigner à tout le monde. Donc, Cheikh Mohammed ibn Saleh Al-Uthaymeen a rejoint tout d'abord l'assise de Cheikh Mohammed ibn Abdelaziz Al-Mutawwa. Et il a appris auprès de lui la science du tawhid et du fiqh et de la grammaire arabe et ce dont il a pu profiter. Après avoir appris avec ce cheikh, il s'est assis dans l'assise de son cheikh, Al-Allama Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah. Alors il a étudié auprès de lui la science du tafsir, la science du hadith, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le tawhid, le fiqh, les fondements du fiqh, de la jurisprudence, la science de l'héritage, la grammaire arabe. Et il a mémorisé auprès de lui des textes résumés dans différentes sciences. Et Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di est considéré comme son premier cheikh de qui il a pris la science. Et celui qui est le plus connu parmi ses chouyours, bien qu'il ait profité d'autres chouyours à part Cheikh Sa'di, mais en général, on ne retient que les plus éminents et les plus grands savants parmi les professeurs d'un cheikh. D'ailleurs, Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen a été très influencé par la méthodologie d'enseignement et la manière dont le Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di éduque ses élèves. Et la manière d'enseigner et son suivi du dalil, son suivi de la preuve, une fois que la preuve apparaît, de la suivre et de ne pas s'attacher à un avis si la preuve dit son contraire. Et quand le Cheikh Abdurrahman ibn Ali ibn Aoudan était juge dans la ville de l'Unayza, il a appris auprès de lui, il lui a lu dans la science de l'héritage. De même qu'il a lu sur le Cheikh Abdurrazzaq al-Afifi, rahimahullah, dans la science du Nahw et de l'Balagha, dans la grammaire et l'Balagha, quand Cheikh Abdurrazzaq al-Afifi était désigné comme enseignant à l'Unayza. Et une fois que l'institut scientifique de Riyad a ouvert, le Cheikh Ali ibn Hamad al-Salihi a dit à Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen de rejoindre cet institut. Alors, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen a demandé la permission à Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, son Cheikh, d'aller étudier à Riyad dans l'institut scientifique de Riyad. Il lui a donné la permission. Et il est parti dans cet institut-là pendant les années 1372 et 1373, 2 ans. Pendant ces 2 années où il a étudié dans cet institut-là, il a profité des savants qui étaient enseignants dans cet institut. Parmi eux, le grand savant, le Mufassir, Cheikh Mohammed Al-Amin Shanqiti, rahimahullah, et le Cheikh Abdelaziz Ibn Nasir Ibn Rashid, et le Cheikh Al-Muhaddith Abdurrahman Al-Afriqi, rahimahumullahu jami'a. Et c'est à ce moment-là qu'il a lié des liens avec le Cheikh Abdelaziz Ibn Abdullah Ibn Baz. Et il profitait d'aller dans sa mosquée pour lui lire Sahih Al-Bukhari et pour lui lire des ouvrages de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Alors il a beaucoup profité du Cheikh Ibn Baz dans la science du hadith et dans le fait de regarder avec précision dans les avis des savants dans le fiqh, dans la jurisprudence et dans la comparaison dans les différents avis. Alors Cheikh Ibn Baz est considéré comme son deuxième Cheikh dans ce qu'il a appris auprès de lui et dans le fait qu'il a été influencé aussi par lui. Comme on a dit, avant cela et après cela, il a profité d'autres chouyours. Mais on ne retient que ceux dont il a été le plus influencé et qui ont une place dans la science religieuse. Donc son premier cheikh est Cheikh Sa'di, rahimahullah, que le cheikh Hamad al-Ansari, le grand muhaddith africain de Médine qui est décédé, rahimahullah, considérait que Cheikh Sa'di, il fait partie des plus éminents savants qui ont existé dans le Najd, dans cette région de l'Arabie, pour montrer la place que ce cheikh a dans la science. Donc son premier cheikh est Cheikh Sa'di. Et son deuxième cheikh est Cheikh Ibn Baz. Puis le cheikh est retourné à Al-Unayza en l'an 1374 de l'Égypte. Et il a recommencé à étudier avec le cheikh Sa'di à Al-Unayza. Et il est resté étudiant par procuration à l'université de Sharia de Riyad, qui était devenue une partie de Jami'at al-Imam, de l'université de l'imam Mohamed ibn Saoud al-Islamiyya que l'on connaît ici, l'université de Riyad, jusqu'à ce qu'il prenne le diplôme de licence dans cette université. À savoir qu'au début, à cette époque-là, ce type de diplôme n'avait pas une grande importance chez les savants. Cheikh Ibn Baz, il n'avait pas ses diplômes. Cheikh Sa'di, il n'avait pas ses diplômes. Mais ils avaient beaucoup plus de science que tous ceux qui ont ses diplômes. Cheikh Mohamed Amin al-Shanqiti, il n'avait pas ce diplôme. Cheikh Al-Albani, il n'avait pas ce diplôme. La plupart des savants de leur époque n'avaient pas tous ces diplômes-là. Et quand après la porte des diplômes universitaires a été ouverte, les savants ont encouragé de prendre ces diplômes pour pouvoir, on va dire, réglementer, organiser un peu plus la vie scientifique et que ce soit une chose dont les gens peuvent avoir utilité pour être enseignants dans différents pays, dans des universités, pour être reconnus comme des gens ayant la capacité d'enseigner ou de faire des recherches ou autre. Mais le diplôme en soi n'est pas une garantie, n'est pas une valeur sur seulement le fait qu'une personne a un diplôme. Cela veut seulement dire qu'il a certes atteint un certain niveau universitaire, qu'il est passé par certains livres. Mais après, entre les différentes personnes qui prennent le diplôme, la différence entre eux peut être comme une différence entre les cieux et la terre. Énorme. Deux personnes qui sortent de la même université, qui ont le même diplôme, mais la différence dans leur science, dans leur compréhension, dans le chemin qu'ils suivent, peut être la différence entre les cieux et la terre. Et tous ceux qui sont dans le monde de la science connaissent cela. Comme dans le monde de Dunia, comme dans le monde de la vie de tous les jours. Combien de gens sortent d'une école de commerce, ou bien un diplôme d'ingénieur, ou diplôme en n'importe quelle matière, et pourtant, on sait très bien qu'entre les élèves, il y a une très grande différence. Il y a des élèves qui sont très bons, et d'autres qui sont à peine passables, et d'autres qui ont eu leur diplôme, on se demande comment ils les ont eus. Donc, ceci est vrai aussi dans le monde de la science religieuse. Le Cheikh Abdurrahman Sa'di a vu que le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen était quelqu'un de très intelligent et qui était rapide dans l'apprentissage et dans la compréhension de la science. Il l'a donc encouragé à l'enseignement, alors qu'il n'était encore qu'un étudiant auprès de lui. Alors le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, rahimahullah, a commencé à enseigner dans la grande mosquée de l'Unayza en l'an 1370. Et quand il a eu son diplôme au Ma'had Ilmi, à l'Institut Scientifique de Riyad, il a été désigné comme enseignant à l'Institut Scientifique de Hunayza. Il faut savoir qu'au début, en Arabie, les premières universités qui ont ouvert, ce n'étaient pas vraiment des universités comme on les connaît aujourd'hui. Elles étaient nommées instituts scientifiques, comme ça, Ma'had al-Ilmi. Il y a beaucoup de savants qui sont sortis du Ma'had al-Ilmi de Riyad. Puis après, ceci s'est transformé en l'université de Riyad, l'université de Al-Qasim et autres. En l'an 1376, le Cheikh Abdurrahman ibn Nasser al-Sa'di est décédé. Alors, le Cheikh al-Uthaymin est devenu l'imam de la grande mosquée de l'Unayza. Et c'est lui qui faisait les prêches du vendredi et les prêches des deux Eid. Et c'est lui qui enseignait dans le bureau national de l'Unayza qui a été fondé par son cheikh en l'an 1359. Et quand beaucoup d'étudiants ont commencé à venir, le bureau, la bibliothèque n'a plus suffi. Alors le cheikh Mohamed bin Saleh al-Uthaymin a commencé à enseigner directement dans la mosquée, dans le Jami', dans la grande mosquée. Et voilà que les étudiants ont commencé à voyager vers lui de toute l'Arabie et d'autres contrées, jusqu'à ce que ces étudiants sont comptés par des centaines dans certains cours. Et tous ces étudiants, il leur a été demandé d'étudier d'une manière, pas juste ils sont là comme des auditeurs. Non, chacun était interrogé, il leur a été demandé de mémoriser, des questions leur étaient posées, il y avait un suivi. Et le cheikh Mohamed ibn Saleh al-Uthaymin est resté imam et khatib et enseignant dans cette grande mosquée dans laquelle était imam, khatib et enseignant avant lui son cheikh Abdurrahman al-Sa'di jusqu'à ce qu'il décède lui aussi, rahimahullah. De même qu'il était enseignant dans l'institut scientifique de l'Unayza depuis l'an 1374, jusqu'à l'année 1398, car c'est l'année où il a été transféré pour être enseignant dans l'université de Sharia de Al-Qasim, qui suivait l'université Al-Imam de Riyad. Et il est resté enseignant dans l'université de Al-Qasim jusqu'à sa mort, rahimahullah. De même qu'il était enseignant dans la mosquée sacrée de la Mecque et la mosquée prophétique en période de pèlerinage et de Ramadan et dans les périodes de vacances estivales. Et ceci depuis l'an 1402 de l'Hégire jusqu'à son décès, rahimahullah, qui était en l'an 1421 de l'Hégire, rahimahullah. Il faut savoir que le cheikh Mohamed ibn Saleh al-Uthaymin était connu pour sa pédagogie, une pédagogie hors norme dans son enseignement. De même, dans sa manière de questionner les étudiants, dans la manière dont il accueillait leurs questions, dans la manière dont il donnait les cours, les conférences, avec une grande attention et beaucoup de volonté et une âme reposée et pleine de confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Et on ressentait son amour et son désir de transmettre la science utile et de rapprocher la compréhension de la science aux gens du commun, c'est-à-dire de la présenter d'une manière facile à comprendre, accessible. Et ça, il a fait un très grand effort en cela, le cheikh rahimahullah, de rendre les différents domaines de la science accessibles aux étudiants débutants et aux communs des musulmans. Le cheikh rahimahullah, il a de nombreux enseignements dans les différents livres de référence, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans le fiqh, dans la jurisprudence, que ce soit dans la langue arabe, il avait fait l'explication de Alfiyat ibn Malik et d'autres, que ce soit dans le balaghah, même dans la langue arabe, que ce soit dans le tafsir, que ce soit dans les fondements de la jurisprudence, que ce soit dans la science du hadith, que ce soit dans les sujets qui font partie de l'éducation et de la purification de l'âme, dans les différents domaines de la religion, rahimahullah. Et ceci, que ce soit dans les différents cours qu'il donnait régulièrement, ou dans les conférences, ou dans ses écrits, ou dans ses voyages, il était très actif, rahimahullah, dans l'enseignement. D'ailleurs, il n'a pas écrit beaucoup de livres de sa main. La plupart des livres qui sont aujourd'hui attribués à lui sont des retranscriptions de ses cours audio. Il était très actif dans l'enseignement. Et en général, on trouve ça chez les savants. Ceux qui sont très actifs dans l'enseignement n'ont pas beaucoup de temps pour l'écriture, pour écrire, alors que ceux qui écrivent beaucoup sont parfois moins actifs dans l'enseignement. D'ailleurs, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, s'est plaint de l'époque où il était à Médine, car il était tellement occupé par les gens, tout le monde réuni autour de lui, qu'il ne lui laissait pas un instant. Et il s'est plaint que à l'époque où il était à Médine, il n'a pas pu beaucoup écrire et beaucoup chercher. à la différence de l'époque où il était en Syrie puis en Jordanie, car il n'avait pas beaucoup de gens qui étaient autour de lui. Même quand il donnait des cours aux gens, il fixait son moment. En dehors de ce moment-là, il était occupé dans la recherche, l'écriture, etc. De même, Cheikh Hamad al-Ansari, rahimahullah, c'est un grand muhaddith, un grand savant de cette époque, mais il n'a pas d'écrit. Les savants qui l'ont côtoyé, ils ont dit que ce sont les étudiants qui lui prenaient son temps. À chaque fois qu'un étudiant venait le voir, il ne lui fermait jamais la porte, il accueillait tout le monde. Et de ce fait-là, il n'a pas pu beaucoup écrire. Pourtant, les savants le considèrent vraiment comme un savant dans le hadith et même dans d'autres sciences qui égale Cheikh al-Albani. Mais il est peu connu chez les gens. Cheikh Hamad al-Ansari, qui est d'origine malienne, d'Afrique, et qui avait émigré en Arabie. Il faut savoir que Cheikh al-Uthaymeen a une grande place auprès des gens de science. Et il est considéré parmi les gens ancrés dans la science. Ceux à qui Allah tabaraka wa ta'ala a fait l'honneur de les élever par cette science. De même qu'il est connu pour ses caractéristiques morales et ses grandes qualités, que ce soit sa modestie, que ce soit sa générosité, que ce soit son ascétisme, qu'il ne donnait aucune importance à ce bas monde, que ce soit son comportement avec les savants, avec les étudiants, avec le commun des gens, dans la manière dont il éduquait ses étudiants et les gens qui s'approchaient de lui, dans la manière dont il se comportait avec sa famille. Il était connu pour mettre en pratique les règles et le comportement de l'islam, rahimahullah. Il faut savoir qu'il a eu 5 garçons et 3 filles. Et ces garçons, ils s'appellent Abdullah, Abdurrahman, Ibrahim, Abdulaziz et Abdurrahim. Regardez comment les savants choisissent les prénoms. Ils ne choisissent pas les prénoms selon les goûts et les couleurs comme la plupart des gens aujourd'hui. Ils choisissent les prénoms selon la valeur qu'ils ont auprès d'Allah. Les prénoms les plus aimés auprès d'Allah sont Abdullah et Abdurrahman. Regardez, il a prénommé son premier Abdullah, son deuxième Abdurrahman. Puis Ibrahim, un prénom de prophète, qui sont les gens les plus aimés auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Puis Abdulaziz et Abdurrahim. Il est décédé, rahimahullah, dans la ville de Jeddah, avant le Maghrib, le mercredi 15 Shawwal 1421. Et la prière mortuaire a été célébrée après la prière de l'Asr, le jeudi, à la mosquée sacrée de la Mecque. Et il y a eu des milliers et des milliers de gens qui sont venus assister à sa prière mortuaire et à ses funérailles. Et il faut savoir qu'après la prière de Jumu'ah, le suivant, dans la plupart des mosquées des villes d'Arabie Saoudite, les gens, ils ont prié la prière mortuaire sur lui, Salat al-Ra'ib, la prière sur l'absent. Il faut savoir que sur cette question, il y a divergence chez le Hanabila, dans le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Il est permis de faire Salat al-Ra'ib pour une personnalité importante. Alors que dans d'autres avis, Salat al-Ra'ib, la prière sur l'absent, ne se fait qu'en cas où on n'a pas pu prier sur la personne. Ou alors on ne sait pas si les gens ont prié sur la personne, ou il n'a pas été possible de prier sur la personne. Donc, juste pour que vous compreniez pourquoi, donc en Arabie, ils avaient adopté cet avis, qui est un avis parmi les avis des savants. Voilà ce qu'on peut dire en résumé de Cheikh Mohamed bin Saleh al-Uthaymeen. Juste une petite anecdote le concernant, puisqu'on a parlé de sa vie avec sa famille. Il faut savoir que le Cheikh, rahimahullah, donnait beaucoup d'importance donc à l'éducation des enfants. Ce qui, malheureusement, est parfois négligé par certains de nos frères et de nos sœurs qui font des efforts sur eux-mêmes pour apprendre la science et pour avancer dans leur religion, mais qui négligent l'éducation de leurs enfants. Alors, un jour, son épouse, qui ne savait ni lire ni écrire, l'épouse de Cheikh Mohamed ibn Saleh al-Uthaymeen ne savait ni lire ni écrire. Écoutez bien. Son épouse a été motivée pour apprendre à écrire et à lire. C'était à l'époque où ses enfants étaient encore petits. Le cheikh, rahimahullah, lui a dit « Tu as une mission plus importante pour l'instant, qui est de t'occuper de tes enfants et de ta maison. Quand tu auras fini, quand tes enfants grandiront, c'est moi-même qui vais t'enseigner la science. » Donc pour montrer comment elle connaissait les priorités des choses. Combien de nos sœurs aujourd'hui délaissent leur maison, ne s'occupent ni de leur mari, ni de leurs enfants, soi-disant pour apprendre la science. En fait, c'est une fuite. C'est une manière de fuir leurs responsabilités. Mais regardez ce faqih, ce savant qui a compris qu'est-ce qui était le plus important pour cette femme, avec quoi elle allait gagner plus de récompenses auprès d'Allah. Bien sûr, si quelqu'un peut joindre entre les deux, c'est encore mieux. Ceci n'est qu'une anecdote pour montrer les priorités, et non pas pour blâmer le fait qu'une personne apprenne. Bien sûr, cette femme, elle était obligatoire pour elle ou pour toute autre femme de connaître les bases de sa religion. Mais elle, alhamdoulilah, elle avait un savant dans sa maison qu'elle pouvait questionner à n'importe quel instant pour les bases de la religion, pour la croyance, pour la pratique ou pour autre chose. Et ça, c'est le minimum obligatoire pour tout musulman. Questionner les gens de science quand ils ne savent pas. Mais pour pousser plus loin dans la science et maîtriser certains domaines de science et devenir un étudiant ou une étudiante, ceci n'est pas une obligation individuelle pour tout musulman. Surtout s'il a d'autres obligations qui sont directement dirigées vers lui. Et là, précisément pour la femme, elle a des obligations qui sont dirigées vers elle dans sa maison, que beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos sœurs négligent fortement à cette époque. Ce qui donne les catastrophes que l'on voit, les problèmes dans les couples, la mauvaise entente, les problèmes dans l'éducation des enfants. Comment ça se fait que nos frères et nos sœurs, on trouve leurs enfants, ils sont très mal éduqués parfois, certains d'entre eux. Est-ce que ça, c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Donc ça vient d'un déséquilibre. Ce déséquilibre, c'est que chacun parmi l'homme et la femme ne connaît pas sa place, ne connaît pas ses devoirs, ne connaît pas les actes les plus aimés auprès d'Allah pour lui, ne connaît pas avec quoi elle va gagner le paradis. Alors, la femme, elle veut devenir comme un homme, et l'homme, beaucoup d'hommes sont devenus comme des femmes qui ne font pas leur responsabilité d'homme, et le déséquilibre dans les familles est apparu. Non. Alors, ce livre, il s'appelle « Aqidatu Ahli Sunnati wal Jama'a » que nous avons traduit par « La croyance des gens de la sunna et du groupe ». Premièrement, nous allons détailler chaque mot de ce titre pour mieux comprendre que veut dire ce titre et de quoi traite cet épître ou ce livre. Aqida, ce sont des choses auxquelles on adhère intimement avec une certitude débarrassée de toute hésitation. Et aqida, ça vient du terme aqada en arabe, qui veut dire attaché, qui tourne autour du sens de la fixation, de l'assurance. Donc ici, c'est comme si le croyant s'était attaché à ces croyances-là, c'est-à-dire à toutes ces connaissances dont il a reçu l'information authentique de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son messager. Ce sont donc toutes ces connaissances auxquelles le musulman doit adhérer intimement du fait de sa croyance en Allah et en son messager sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce que veut dire aqida. Mais ici, le cheikh a dit aqidatu ahli sunnati wal jama'a. Il a annexé cette croyance à qui? Aux gens de la sunna et du groupe.
Les gens de la sunna. Ahl, c'est les partisans, c'est-à-dire ceux qui se caractérisent par cela. La sunna, c'est la voie sur laquelle nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, c'est précisément la croyance et la voie sur laquelle nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sunna peut avoir d'autres définitions dans d'autres domaines scientifiques. Et al-jama'a, c'est le groupe des croyants qui est à la base le groupe des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis.
Alors, qui sont les gens de la sunna et du groupe? Ahl sunna wal jama'a, c'est une terminologie qui a été utilisée par les savants quand les innovations sont apparues. Elle est venue en opposition aux gens de l'innovation. Donc, ahl sunna, elle est venue en opposition à la bid'a, à l'innovation. Et al jama'a, le groupe, il est venu en opposition à al furqa, la division. D'ailleurs, les innovateurs sont connus par Ahlul Bid'ati wal Furqa, les gens de l'innovation et de la division. Alors que les musulmans qui sont sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont connus pour leur attachement à la sunna, c'est-à-dire au délaissement de la bid'a, et leur attachement au groupe des musulmans. Donc quand la bid'a de Tashayyu' et de l'Qadariyya et de l'Khawarij a apparu, à l'époque des Sahaba radiallahu anhum, certains d'entre eux ont commencé à utiliser ce terme. Pourtant, il y a des versets où Allah tabaraka wa ta'ala dit « Il vous a nommé muslimine, musulman ». Il y a des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah se désavoue de celui qui se nomme d'un autre nom que l'islam, ou qui se nomme autre que musulman ou croyant. Effectivement, ça c'est quand la prétention ou bien l'affiliation est une affiliation qui n'est pas légiférée. Une personne, par exemple, qui s'affilie à un groupe, une personne qui s'affilie à un parti politique, une personne qui s'affilie à ses origines géographiques, mais d'une manière mauvaise, non pas seulement pour informer les gens. Par exemple, je suis français, je suis africain, je suis syrien, je suis chinois. Ça, c'est juste une information. Ça, il n'y a pas de mal.
Mais si par contre l'affiliation devient une affiliation exagérée, nationaliste, alors cela rentre dans l'interdit. De même, celui qui s'affilie à un madhab, si c'est juste une affiliation dans le sens où la personne explique « Moi, j'ai étudié le madhab Maliki. Moi, j'ai été éduqué sur le madhab Hanbali. Voilà l'école juridique sur laquelle j'ai été éduqué et sur laquelle j'ai eu mes fondements et j'ai été éduqué. » Ça, il n'y a pas de mal. Dans ce sens-là, il n'y a pas de mal. Mais si c'est dans le sens où je m'attache à cette parole ou à cette voix-là, même quand elle contredit les hadiths, même quand elle contredit la vérité, alors là, on tombe dans l'interdit. Voilà donc les affiliations qui sont interdites, celles qui ne sont pas légiférées, celles qui sont sectaires, comme les personnes qui s'affilient à une tariqa soufia, comme les personnes qui s'affilient à une jama'a, comme jama'at al-ikhwan al-muslimin, ou jama'at al-tablir, ou jama'a fulaniya, telle jama'a ou jama'a, qui en faisant cela, se divise, se sépare, se différencie du groupe des musulmans en général. Alors que si c'est une affiliation légiférée qui appelle à l'union autour de la vérité, alors elle ne tombe pas dans l'interdit. La preuve, ce que les sahaba ont fait à leur époque. Le premier à avoir cité ce nom de Ahl Sunnah wal Jama'a est Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Quand il a expliqué le verset 106 de sourate Ali Imran, où Allah tabaraka wa ta'ala dit « Yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh » Le jour où des visages seront blanchis et d'autres seront noircis. Il a dit quoi? Il a dit le jour où les visages des gens de la sunna, ahl sunna wal jama'a, les gens de la sunna du groupe seront resplendissants et blanchis et que seront assombris le visage des gens de la bid'a, de l'innovation wal furqa et de la division. Donc regardez comment il a mis en opposition les gens de la sunna et du groupe aux gens de l'innovation et de la division. Car l'innovation va de pair avec la division. Car ce sont les innovations qui sont venues diviser la communauté, séparer. La sunna ne divise pas. La sunna unit autour de la vérité. La sunna, quand on dit qu'elle divise, oui, elle discerne entre le vrai et le faux. Elle discerne entre les gens du vrai et du faux. Comme le Coran, le Furqan, le discernement qui est venu discerner entre le vrai et le faux. Comme Omar al-Farouq qui discernait. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam auparavant qui dit « Ana farqum bayna an-nas » Je suis venu diviser, discerner entre les gens, entre le vrai et le faux. Et comme les gens de la sunna qui sont Ta'ifatul Mansoura, Al-Firqatul Najiyah, le groupe secouru, le groupe sauvé, qui discerne entre le vrai et le faux. Mais ils ne sont pas venus pour diviser les gens en appelant à une secte, à un groupe. Donc la bid'a, l'innovation, elle divise. Car on ne peut pas mettre les gens d'accord sur autre chose que sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment prétendre vouloir unir la umma sur autre chose que sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc en choisissant une autre voie que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils le veuillent ou non, que ce soit leur intention ou non, qu'ils le prétendent ou non, ils sont venus diviser la communauté. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les juifs se sont divisés en 71 sectes. Les chrétiens se sont divisés en 72 sectes. Et ma communauté va se diviser en 73 sectes, toutes au feu, sauf une. » Donc, qui est ce groupe-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé lui-même Al-Jama'a, le groupe des musulmans. Il faut savoir que ceux qui ont contredit la sunna sont toutes les sectes. Mais ceux qui ont contredit le principe de la Jama'a, comme on a dit, toute personne qui a choisi un chemin d'innovation a contredit ce principe. Mais il y en a qui l'ont contredit d'une manière plus forte et plus claire, comme les Khawarij, qui eux rompaient le pacte d'allégeance envers les dirigeants des musulmans, et divisaient l'union des musulmans en voulant sortir contre le dirigeant des musulmans. Donc eux, ils sont plus à même de Ahl al-Furqa, les gens de la division. Bien que tous les groupes innovateurs sont Ahl al-Furqa, sont les gens de la division. Mais il y en a dont leur effet dans la division des musulmans est beaucoup plus perceptible et plus clair que d'autres. Ce nom-là a été donné par les sahaba, mais ce nom-là, les gens de la sunna, le groupe qui s'attache à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'attache au Coran, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la voix sur lesquelles étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à toutes les époques, ils ont eu des noms différents qui ont été donnés. Parmi les noms, on a cité Ahl sunna wal Jama'a, de même qu'ils ont déjà été nommé par Al-Jama'a seul, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a nommés Al-Jama'a, ou parfois ils sont nommés seulement par Ahl al-Sunnah, les gens de la Sunna. Parfois ils sont nommés par Ahl al-Athar, les gens qui suivent ce qui a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ahl al-Athar, al-Athar, ça veut dire les effets, tous les effets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissés, toutes ces traditions, c'est dans ce sens-là. De même qu'ils ont été nommés par Ahl al-Hadith, les gens du Hadith, c'est-à-dire les gens qui s'attachent au Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce qui a été transmis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans la croyance ou dans les actes. Parfois ils peuvent être nommés par al-Firqatun Najiyah, comme il est venu dans le Hadith, le groupe sauvé. Comme ils peuvent être nommés aussi par Ta'ifatul Mansoura, le groupe secouru, ou ils peuvent être appelés par Ahlul Ittiba', les gens du suivi, ou comme aujourd'hui, on dit les Salafis, les Salafiyoun. Pourquoi toutes ces dénominations-là, selon le besoin, selon l'endroit, pour se différencier des gens de l'innovation, et non pas pour se diviser du commun des musulmans, contrairement aux gens de l'innovation. Les gens de l'innovation, quand ils s'affilient à leur groupe, ils se séparent du commun des musulmans avec une spécificité qui n'est pas légale, qui n'est pas légiférée. Alors que quand Ahle Sunna, les gens de la Sunna se différencient, ils ne le font que dans le besoin. Premièrement, si tous les musulmans aujourd'hui reviennent à ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne sera plus légiféré de s'appeler ni salafi ni quoi que ce soit, on s'appellera musulman. Cela sera suffisant. Car tout le monde sera sur cette voie-là, comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme ceci n'est pas possible, comme Allah l'a dit dans le Coran, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, que cette communauté va se diviser, donc il était nécessaire de savoir avec quoi on se différencie des groupes égarés. On se différencie du fait qu'on s'attache à la croyance et à la pratique du Coran, de la Sunna authentique, comprise et mise en pratique par les meilleurs gens qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont en premier titre eux, al-jama'a. Al-jama'a, al-sawad al-a'zam. Le plus grand groupe, ce sont à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après lui, les compagnons. Car les gens sur la vérité à leur époque étaient majoritaires. Car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient nombreux. Mais plus les époques sont passées, plus les gens de la vérité sont devenus minoritaires. Et d'ailleurs, la majorité et le grand nombre n'est pas un signe et une preuve d'être sur la bonne voie ou d'être bien guidé. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, blâme la quantité. Et il dit, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Très peu parmi mes serviteurs sont reconnaissants. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Et la plupart des gens, même si tu y es vigilant, ne sont pas croyants. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Et la plupart des gens ne savent pas. Combien de versets sont venus dans ce sens-là? Les hadiths des ghurabas, des étrangers, qui à la fin des temps seront qalil, comme il est venu dans le hadith. Des gens pieux, d'un petit nombre. Ceux qui leur obéissent sont très peu par rapport à ceux qui leur désobéissent. Donc on voit très clairement que vers la fin des temps, et plus on s'éloigne de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus les gens de la vérité sont minoritaires. Cela ne veut pas dire par là qu'ils seront toujours de moins en moins nombreux. Non, il peut y avoir des périodes où ils sont plus nombreux que d'autres. Mais d'une manière générale, ils seront de plus en plus minoritaires. Car comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas une époque qui va venir sans qu'elle soit pire que celle d'avant, jusqu'à ce que l'heure se lève. Une fois qu'on a expliqué cela, alors on comprend le sens de l'intitulé du livre de Cheikh Mohamed bin Saleh Al-Uthaymeen, Aqidatu Ahli Sunnati Wal Jama'a, la croyance des gens de la Sunna et du groupe, et non pas une croyance inventée, non pas une croyance d'une secte égarée, d'un groupe égaré, ou d'un parti, ou quoi que ce soit d'autre. C'est pour ça que Al-Jama'a, le groupe en réalité, sont ceux qui ont suivi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont ceux qui ont suivi les gens de science qui sont restés sur les pas des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Bukhari rahimahullah a rapporté dans le chapitre de l'i'tisam, le fait de s'attacher au Coran et à la Sunna, dans la compréhension du hadith, il ne cessera d'avoir un groupe de ma communauté qui seront apparents sur la vérité. Il a dit, ce sont les gens de science. Ce sont les gens de science. Donc, tous ceux qui sont sur le pas des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les gens de science, ce sont eux la jama'a. Et les musulmans qui se sont attachés à cette croyance et qui les ont pris comme guides sont al-jama'a. Sont al-jama'a. Et d'ailleurs, Abdullah ibn Mas'ud a dit, al-jama'a, c'est celui qui est sur la vérité, même s'il est seul. Même s'il est seul. Non. Voilà ce qu'on peut dire sur le titre. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallillahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.